Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et bonjour David Engels.
Bonjour Richard, toujours un plaisir matinal.
Merci beaucoup. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui vous nous emmenez au Japon.
Oui, en effet. Un bon ami vient de me passer le roman de science-fiction « Le Japon cool » de Sakio Komatsu. Et sa lecture m'a ramené au monde de ma jeunesse lorsque le Japon représentait encore l'une des grandes promesses du monde contemporain. Ainsi, dans les années 1970 et plus encore dans les années 1940, il incarnait à la fois la réussite industrielle, la modernité technologique et une certaine forme de capitalisme discipliné que beaucoup, en Europe comme aux États-Unis, jugeaient supérieur au modèle occidental classique. Les automobiles japonaises s'imposaient partout, Sony transformait l'électronique grand public, Toyota révolutionnait les méthodes de production, tandis que Tokyo semblait annoncer le 21e siècle avant tout le reste du monde. Certains essayistes américains évoquaient même un siècle japonais, tandis qu'en France, Roland Barthès ou Jean Baudrillard voyaient dans le Japon une modernité radicalement différente de celle de l'Occident et donc une vraie alternative. Puis, le Japon a lentement disparu du centre du récit mondial. Alors bien sûr, le pays demeure omniprésent dans notre quotidien culturel, manga, animé, jeux vidéo, gastronomie, design minimaliste, tout ça continue d'exercer une fascination mondiale, mais cette influence diffuse masque un effacement plus profond, car les grands débats stratégiques européens tournent désormais autour des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou de l'Inde. Même la Corée du Sud paraît parfois occuper davantage d'espace médiatique que le Japon. Alors cette disparition ne s'est pas produite soudainement, évidemment. Déjà dès les années 1990, l'écrivain Yoshimoto Takahaki décrivait une société entrée dans une phase de basse intensité historique où une prospérité matérielle solide, mais en stagnation, survivait sans doute à la disparition de la croissance et des grands projets collectifs. Alors certes, le Japon demeure toujours la quatrième économie mondiale, grande puissance industrielle, l'un des pays politiquement les plus stables de la planète, mais il semble désormais occupé avant tout à gérer son déclin démographique et économique de la manière la plus calme et efficace possible, devenant ainsi, après avoir incarné l'avenir, la première grande société développée et organisée autour de la gestion consciente du ralentissement historique.
Alors, de quand date ce basculement selon vous ?
Bon, je crois que beaucoup d'experts sont d'accord à dire qu'il a commencé avec l'éclatement de la bulle financière et immobilière du début des années 90. Les fameuses décennies perdues sont devenues entre-temps le symbole d'une stagnation durable. Croissance faible, inflation quasi nulle, vieillissement accéléré, inquiétude face à l'essor chinois. Pourtant, le mot même de stagnation est trompeur. Vu d'Europe, le Japon apparaît moins comme une société en ruine que comme une société extrêmement stable, mais ayant renoncé à l'idée d'expansion permanente. L'économie japonaise reste ainsi extraordinairement sophistiquée, comme on le sait. Le pays domine toujours des secteurs industriels essentiels, la robotique, les composants électroniques, la chimie fine, les machines, outils ou matériaux avancés. Certes, alors, le Japon ne produit plus les grands symboles du numérique mondial, mais au moins, il fabrique des éléments indispensables à leur existence, devenant là où les États-Unis contrôlent les plateformes et la Chine les grands géants visibles, une puissance de l'infrastructure. Mais le temps où le Japon semblait mener la danse du monde technisé du futur semble bel et bien révolu. L'épuisement civilisationnel constaté si souvent n'est d'ailleurs pas seulement économique, mais aussi culturel. Le Japon, des décennies passées, avait développé une éthique du travail presque angoissante, incarnée par des armées de salarymen entièrement dévouées à l'entreprise. Aujourd'hui, une partie non négligeable de la jeunesse suit la voie inverse. Face à une pression professionnelle jugée inhumaine, de plus en plus de jeunes choisissent plutôt une existence minimale et recluse, pour laquelle le psychiatre Tamaki Saito popularisa d'ailleurs le terme de hikikomori, donc des individus retirés du monde social, réfugiés dans les univers virtuels plutôt que dans l'action politique ou dans des utopies collectives. Alors certes, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe tenta de redonner au pays une ambition stratégique et sa doctrine de l'Indo-Pacifique libre et ouvert visait à contenir la montée chinoise et à restaurer un rôle géopolitique japonais plus affirmé. Mais même cette tentation ou cette tentative demeurait prudente et peu féconde. Comme le note le politologue Masaru Tamamoto, La société japonaise préfère désormais la stabilité et plutôt l'introspection à l'héroïsme stratégique, car la puissance n'y est plus vécue comme une promesse, mais plutôt comme un risque. D'une certaine manière, le Japon revient ainsi à une situation plus classique, qui a caractérisé une grande partie de son histoire. Pendant des siècles, l'archipel avait vécu dans l'orbite culturelle chinoise, vu que l'écriture, le bouddhisme, le confucianisme, l'organisation administrative provenaient tous du continent. Seule l'ère Meiji et l'expansion impériale du XXe siècle amenèrent une rupture historique lorsque le Japon a choisi l'Occident contre la Chine et a prétendu dominer celui auquel il devait une grande partie de sa propre civilisation. Le retour de la puissance chinoise réintroduit aujourd'hui une asymétrie régionale que beaucoup de Japonais considèrent comme finalement déplorable, mais au fond historiquement naturelle.
Dans ce grand traumatisme japonais, il n'est ni militaire ni diplomatique, il est plutôt, semble-t-il, démographique en fait.
Oui, tout à fait. Depuis aussi, là, les années 90, la natalité s'effondre, les campagnes se vident, la population diminue, et le Japon est devenu le laboratoire mondial du vieillissement et expérimente avant les autres ce que c'est une société post-croissance où le problème principal n'est plus la production de richesses, mais plutôt le maintien d'équilibres sociaux ou intergénérationnels. Le plus frappant pour un Européen est alors que le Japon refuse largement de répondre à cette crise par l'immigration de masse. Un refus pas seulement politique, mais civilisationnel et justifié par l'immense homogénéité culturelle qu'a toujours connue le royaume insulaire. Le Japon a donc choisi une autre voie, l'automatisation. Robotique, industrielle, assistance électronique aux personnes âgées, l'intelligence artificielle, partout le pays tente de compenser le manque d'êtres humains par la technologie, faisant émerger ainsi ce que le philosophe Hiroki Azuma considérait jadis comme une société post-humaine douce, où la technologie ne sert plus à conquérir le monde, mais à compenser la disparition progressive des liens sociaux traditionnels. Mais même dans ce domaine, le Japon n'apparaît désormais plus comme l'avant-garde absolue, car la Chine a là aussi dépassé l'archipel dans à peu près tous les secteurs stratégiques de la robotique ou de l'intelligence artificielle. Alors ce déplacement nippo-chinois touche désormais l'aspect culturel et du soft power elle-même. Durant les années 90 et 2000, le Japon avait conquis l'imaginaire mondial. Pokémon, Dragon Ball, Studio Ghibli ou Final Fantasy, formant une sorte d'empire culturel global caractérisé par une fusion entre culture populaire d'un côté et culture avant-gardiste, une fusion que Takashi Murakami avait appelée une fois la société Superflat. Alors certes, derrière cette esthétique demeurait souvent une profonde nostalgie, particulièrement visible chez Miyazaki et ses villages ruraux, sa spiritualité animiste, sa méfiance envers l'industrialisation, sa quête d'une harmonie perdue entre technologie et nature. Mais cette mélancolie restait contenue par une confiance peut-être naïve, mais sympathique et éminemment fascinante en un avenir technisé. Aujourd'hui, l'influence culturelle nippone reste toujours immense, mais elle ne définit plus notre époque. Alors qu'à l'inverse, la Chine est en train de construire progressivement un écosystème culturel complet, fondé, certes encore davantage sur des plateformes que sur les contenus, comme le montre TikTok, mais nous pouvons parier que la Chine rattrapera là aussi très bientôt son retard et va certainement développer sa propre soft power.
Alors, votre conclusion ?
Les penseurs japonais eux-mêmes semblent avoir largement intériorisé cette transition historique vers la stabilité, voire le déclin. Contrairement aux sociétés occidentales, où ce déclin suscite souvent des réactions populistes ou catastrophistes, le Japon répond plutôt par l'adaptation graduelle et une certaine forme d'acceptation. Car après tout, au terme de quelques décennies d'exceptions historiques remises par la destruction de la Chine durant la guerre sino-japonaise, les conséquences de l'aventure maoïste et le coup de pouce américain, les choses semblent aujourd'hui revenir à une forme de normalité asiatique. Vu de l'Europe, cette absence de dynamisme, cette prudence excessive et cette faible confiance dans l'avenir peuvent sembler inquiétantes. Et en somme, c'est peut-être précisément pour cela que le Japon nous fascine moins aujourd'hui. Parce qu'il nous semble de plus en plus, ce qui nous ressemble de plus en plus et nous renvoie à une réalité que nous refusons d'accepter pour nous-mêmes. Une société riche, mais vieillissante, technologiquement avancée, mais hésitante, dépendante stratégiquement des États-Unis, tout en vivant dans l'ombre d'une Chine mentante, et en remplacer les ambitions collectives par une introspection presque post-historique. Tout cela nous ressemble beaucoup et tout cela est difficilement acceptable pour l'Europe. D'où au final deux questions rarement posées. D'abord, pourquoi l'Europe parle-t-elle si peu du Japon comme partenaire stratégique potentiel ? L'incertitude sur l'engagement américain et la dépendance industrielle envers la Chine devraient logiquement pousser Européens et Japonais à se rapprocher davantage. Et pourtant, ce partenariat reste étonnamment discret. Et puis, question peut-être la plus importante, le déclin japonais préfigurerait-il peut-être celui de la Chine ? Parce que le Japon a eu quelques décennies d'avance sur la Chine, dans son occidentalisation comme dans son vieillissement démographique. Or, Pékin montre déjà maintenant des signes inquiétants de d'effondrement de la natalité. Il n'est donc pas impossible que la Chine, elle aussi, soit bientôt obligée d'utiliser sa puissance moins pour l'expansion que plutôt, comme le Japon, pour la stabilisation et la gestion de son propre équilibre intérieur. Mais c'est peut-être déjà une histoire pour une autre chronique.
Et bien donc, à la semaine prochaine, David Hackels, et dans cette veine asiatique, j'espère.
Qui sait, on verra bien. À lundi.
À lundi.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, c'est avec Régis Le Sommier, donc le, comment dire, le fondateur d'Omerta, qui va nous parler d'Ukraine. Effectivement, en ce moment, il y a bien sûr une évolution des discussions diplomatiques. On parle de cesser le feu. Vladimir Poutine assure que la guerre en Ukraine se dirige vers sa fin. Mais il y a surtout autre chose, et c'est peut-être d'ailleurs concomitant, mais pas juste concomitant, c'est peut-être une conséquence. C'est-à-dire, il y a un grave problème de corruption dont on reparle et qui a surgi ces tout derniers jours, avec une fois de plus une mise en cause de la manière dont l'Ukraine reçoit les subsides des autres pays et les redistribue mal, ou plutôt les redistribue très bien, mais pas forcément aux bonnes personnes ni en faisant les bons achats.
Oui, bonjour Richard. Oui, effectivement, c'est un énième scandale qui touche l'entourage. Pour le moment, on n'en est qu'à l'entourage du président Zelensky. On sait que un précédent scandale qui avait touché une question de pot de vin autour de la société Energoatom, qui est la société donc de fabrication de production d'électricité d'origine nucléaire en Ukraine, avait directement atteint Andrei Yermak, qui était le directeur de cabinet, le tout-puissant directeur de cabinet de Volodymyr Zelensky, et l'avait contraint à démissionner. Et là, on arrive à nouveau à une affaire de corruption. Alors, il s'agit de détournement de fonds. Ça va bien au-delà de la question de l'électricité. Et c'est toujours, comme vous savez, les États-Unis ont imposé à l'Ukraine, depuis notamment avant l'arrivée de Donald Trump, mais en particulier depuis l'arrivée de Donald Trump, des organismes, dont un qui s'appelle NABU, N-A-B-U, qui est directement, on va dire, piloté par le FBI américain, et qui est chargé justement d'enquêter sur les attributions des fonds et sur ces malversations. Et là, à nouveau, ce dont on se rend compte, c'est que des personnages comme très très proches de Volodymyr Zelensky, comme quelqu'un comme Timur Mindich, qui a quitté le pays, qui se trouve actuellement en Israël, également l'ancien vice-premier ministre Oleski Tchernychov, qui lui également a quitté le pays, sont dans le viseur pour cette nouvelle affaire de corruption. La vraie conséquence, c'est quelle est la part de comment est-ce que Volodymyr Zelensky savait, et est-ce qu'il va être lui-même éclaboussé par cette nouvelle affaire de corruption. Et ça pourrait déclencher une procédure de destitution par le Parlement. On voit que l'opposition au président Zelensky en Ukraine redonne de la voix, et qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur, et ce évidemment bien au-delà de la question de la guerre, de la question du cessez-le-feu avec la Russie. Donc c'est à nouveau un énième épisode dans la question de la corruption. Il faut rappeler que, quoi qu'on en pense de la cause ukrainienne et de la façon dont l'Ukraine s'est défendue vaillamment depuis le début de ce conflit, le pays avant ce conflit figurait parmi les plus corrompus au monde. Et ce n'est pas la guerre, évidemment, qui aura mis un terme à ces malversations.
Alors, dans ces affaires de corruption, il y a un interlocuteur qui revient assez régulièrement, ou plutôt il y a une personnalité morale, c'est la Sense Bank, donc une institution bancaire que l'Ukraine avait saisie au début de la guerre parce qu'elle était possédée par des oligarques russes. Et donc l'idée, c'était qu'en saisissant la Sense Bank et en faisant en sorte donc, de punir les Russes et surtout d'empêcher qu'une banque située en Ukraine ne puisse servir à la propagande russe. Donc on avait à l'époque expliqué que bravo, c'est génial, en saisissant cette banque, en la rendant ukrainienne, on allait faire en sorte que de poursuivre une guerre économique sans blesser personne, sinon évidemment la fierté et le portefeuille de ses propriétaires, qui d'ailleurs ont déposé plainte et qui n'acceptent, l'arbitrage est en cours. Et cette Sense Bank donc est constituée aujourd'hui de plusieurs membres d'un conseil d'administration dont les noms reviennent régulièrement dans les affaires de corruption. Et là, Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il serait peut-être nécessaire de nationaliser cette banque et donc de la privatiser, autrement dit de faire en sorte qu'elle ressorte du giron public, autrement dit de l'enquête, qu'elle ressorte des pouvoirs d'enquête d'une normaux pour un État, et au contraire de la rendre au secteur privé, comme si on faisait en sorte de refiler les dossiers chauds à ceux qui ont le plus grand intérêt à ce qu'ils disparaissent.
Oui, mais c'est la même chose que quand il propose de nationaliser cette banque, à l'époque où Andrei Yermak, donc son conseiller et confident durant pratiquement toute la guerre, qui était aussi à la tête des négociations, qui avait le tout pouvoir dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, a commencé à rentrer, à être dans le viseur des organismes pilotés par les États-Unis, eh bien, Volodymyr Zelensky avait proposé que ces organismes, justement, soient nationalisés pour qu'il n'y ait plus, finalement, c'est exactement la même démarche, pour qu'il n'y ait plus d'enquête indépendante possible, et puis pour que, finalement, tout rentre dans l'ordre et on continue comme avant. C'est une méthode qui a été utilisée largement pendant la guerre. Je rajouterais à ça qu'il y a également la question du détournement des armes, ce qui n'est absolument pas concerné pour le moment dans ces histoires, mais on sait que plusieurs enquêtes ont montré, alors enquêtes auprès, diligentées par des auditeurs d'ailleurs ukrainiens, auprès du ministère de la Défense ukrainienne, et qui ont montré qu'environ 600 000 armes avaient disparu depuis le début du conflit. Et quand on connaît l'opacité des réseaux mondiaux de marchands d'armes, eh bien on peut s'imaginer que là aussi, il y a eu une partie des armes destinées à l'Ukraine qui ne sont jamais allées au front, mais qui se retrouveront dans des réseaux et potentiellement dans des mains pas très très propres plus tard. Donc là, on est vraiment dans un... La question est d'établir les responsabilités, et vous avez raison de noter qu'on retrouve les mêmes noms, et ça c'est une chose sur laquelle les Américains sont particulièrement sourcilleux. On retrouve les mêmes noms, mais ces personnes sont soit en fuite, soit inaccessibles, soit ont démissionné. Je redis encore une fois que Yermak, lui, était tellement impliqué qu'il n'a pas eu d'autre choix que de démissionner, et Volodymyr Zelensky a dû lui trouver un successeur pour les négociations et pour la gouverne, comme chef de cabinet. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pouvoir prouver que tout ça mène à Zelensky et qu'il a une responsabilité, parce que je rappelle que dans l'affaire qui nous concerne, il s'agit de résidences de luxe construites dans la région de Kiev, dont ces révélations ont été faites à partir d'enregistrements, et dans ces enregistrements, on entend justement le fameux Timur Mindych expliquer qu'une des résidences de luxe dans la région de Kiev irait à Vova, et Vova, c'est le petit surnom de Volodymyr Zelensky pour ses intimes. Voilà.
Alors, indépendamment de Volodymyr Zelensky, et comme le résume un journaliste que je me permets de citer un peu longuement, si une banque retirée à des oligarques russes a été presque immédiatement saisie par des réseaux criminels disposant d'un accès aux plus hautes sphères de l'État ukrainien, et si ces réseaux ont pu l'utiliser pour blanchir des fonds, y compris potentiellement de l'argent provenant des flux d'aide occidentale, alors c'est toute l'architecture de solidarité avec l'Ukraine qui est compromise dans ses fondements. C'est-à-dire, la corruption en fait est avérée. Savoir si Volodymyr Zelensky est atteint ou pas par cette corruption, c'est presque rien par rapport à l'idée que l'Occident a abreuvé de milliards de dollars, de milliards d'euros un pays et qu'une grande partie de cet argent, en fait, n'a pas du tout rempli son objectif. Et évidemment, on se dit, mais que doivent faire ceux qui ont donné à l'Ukraine? Doivent-ils demander le remboursement des fonds? Que va-t-il se passer dans cette guerre aussi économique que l'Ukraine mène contre la Russie?
Alors, c'est très intéressant cette analyse, en effet, parce que ça remet en cause, en effet, les fondements de l'aide à l'Ukraine. Si on a encore récemment, l'Union européenne a débloqué 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, pour un nouveau package qui permet à l'armée ukrainienne de tenir sur le front et de continuer sa guerre. Alors, autrefois, on va dire, les États-Unis étaient impliqués, mais les États-Unis ne sont plus impliqués aujourd'hui, puisqu'ils se sont retirés, on va dire, du financement de cette guerre, ce financement étant fait exclusivement ou presque par l'Union européenne, et les armes étant achetées par l'Union européenne aux États-Unis pour être ensuite rétrocédées à l'Ukraine gracieusement. Et le problème, il est là. C'est que, est-ce que l'Union européenne va accepter, elle a misé intégralement, et Emmanuel Macron en particulier, Keir Starmer aussi, Ursula von der Leyen, sur la pérennité et le combat, la justesse du combat des Ukrainiens derrière Volodymyr Zelensky. Là, effectivement, on peut se demander, et il y aura sans doute, si l'affaire dépasse, mais c'est pour ça que la question de l'implication de Zelensky, à mon sens, est importante. C'est-à-dire que vous avez raison de souligner que les preuves sont là. Maintenant, Volodymyr Zelensky est-il directement impliqué lui-même, ce qui ne pourrait pas décemment rester en l'état. On ne va pas continuer à financer un pays pour s'apercevoir à rythme régulier qu'une partie de l'argent est détournée à des fins privées, visiblement.
Alors, les preuves sont là, c'est parce qu'il y a en Ukraine une institution qui lutte contre la corruption, et d'ailleurs une institution dont Volodymyr Zelensky avait voulu prendre le contrôle.
Oui, c'est ça, c'est les deux organismes dont un, je vous dis, est piloté. En fait, ce sont les Américains, à l'époque de Joe Biden, qui ont qui ont exigé de la part des Ukrainiens qu'il y ait des organismes de surveillance sur l'attribution des fonds, sur où va l'argent, parce que une partie, en fait, ce qu'on notait, c'est qu'une partie des entreprises d'armement et entreprises de l'énergie fonctionnait avec des boards dans lesquels les Ukrainiens, au départ, étaient tenus d'avoir au moins un observateur étranger présent au board de la société, quand il y avait des dons, quand il y avait de l'argent qui avait été fourni. Et en réalité, ce qu'on a remarqué, enfin, la raison de la création de ces instituts, c'est que ces boards, en fait, ne renouvelaient pas la présence d'un observateur, on va dire, neutre, et finalement qu'il s'agissait d'une gestion opérée par les amis de M. Zelensky, tout simplement. Et que donc il y a eu l'imposition de ces organismes, et ces organismes ont rendu leur verdict, hein, dans l'histoire de Denergatom, qui a provoqué la chute d'Andrei Yermak. Il s'agissait d'un détournement de 100 millions de dollars autour de pots de vin sur les questions de l'énergie, et c'est particulièrement scandaleux parce que on sait que une des personnes en particulier qui pilotait l'électricité en Ukraine, dont je n'ai pas le nom en tête là, mais ce que je peux vous garantir, c'est que cette personne a été limogée parce que justement elle gênait Andrei Yermak, et qu'elle était à la tête du réseau électrique ukrainien, et elle avait vaillamment, pendant plusieurs années, permis aux Ukrainiens, en dépit des frappes russes, de continuer à se voir fournir de l'électricité. Mais s'imaginer qu'un scandale de corruption arrive sur de l'électricité à plus de 100 millions de dollars de la part des dirigeants, alors que les Ukrainiens souffrent pendant l'hiver des frappes russes et sont privés d'électricité pour une part, et quand en plus celui qui paye les pots cassés de tout ça, c'est celui qui a permis de maintenir ce système de réseau et de distribution électrique vaille que vaille, eh bien c'est encore plus scandaleux. Donc cette première, on va dire, affaire de corruption eh bien, était déjà scandaleuse moralement. On peut imaginer que de se faire construire des villas, des villas de luxe dans la banlieue de Kiev, c'est aussi quelque chose de particulièrement choquant.
Alors, on l'a souligné, donc il y a ces organismes indépendants qui sont en fait sous obédience américaine, et on ne peut pas s'empêcher de penser que chaque fois qu'un nouveau scandale de corruption éclate, parce qu'on en a parlé il y a 6 mois, etc., on a l'impression que c'est une manière oblique pour le gouvernement américain d'influencer le cours de la guerre, et c'est-à-dire de montrer à Volodymyr Zelensky qu'on lui demande... d'être conciliant, qu'on lui demande d'aller vers la paix, qu'on lui demande de négocier, ou sinon tout le bénéfice moral qu'il a tiré de sa résistance courageuse à Vladimir Poutine risque d'être dissipé dans la révélation de ses possibles turpitudes financières.
Oui, c'est une des raisons pour laquelle effectivement ces deux organismes ont d'abord enquêté et ensuite ont fini par sortir ces affaires, et affaires qui ont fragilisé au plus haut point la hiérarchie ukrainienne, de façon effectivement à la contraindre à la négociation. Mais il n'y a pas vraiment eu de contrainte à la négociation, et je vais vous dire, actuellement, je pense que Donald Trump est content, se satisfait de s'être, pour une partie, on va dire, retiré de la guerre en Ukraine, en tout cas financièrement, de la laisser quelque part se faire financer par les Européens, parce qu'il a d'ailleurs plutôt été cette semaine... élogieux vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, en disant que lui, il avait tenu, qu'il l'estimait, indépendamment de l'affaire, vous savez, du 28 février 2025 à la Maison-Blanche, où Zelensky avait été humilié. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand Donald Trump parle de cette affaire, il dit, il parle qu'effectivement, il y a eu une montée dans les tours, mais que c'est de la faute de Zelensky qui s'est montré. Donc, il dit, il s'est montré insolent à ce moment-là, mais sinon, j'aime beaucoup le personnage. Donc, cette semaine, il a fait son éloge, mais quand Trump fait l'éloge de quelqu'un, c'est jamais gratuit. C'est pour dire, oui, au moins Zelensky, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui continue le combat, ce que ne font pas les alliés de l'OTAN, qui, eux, nous laissent tout seuls dans notre guerre contre l'Iran. Voilà, en gros, c'est ça la façon. Mais donc, on peut, voilà, cette pression sur Zelensky, on peut dire, c'est un peu estompé. Et le président ukrainien ne se voit plus contraint par Donald Trump régulièrement d'aller rechercher la négociation avec Vladimir Poutine. Alors, ce qui est quand même intéressant, il s'est quand même passé des choses ce week-end et la semaine dernière, c'est-à-dire que les Russes et les Ukrainiens ont conclu d'un cessez-le-feu qui a duré pendant 3 jours autour du 9 mai. Cessez-le-feu, on va dire, qui, sur les grosses frappes sur les infrastructures orchestrées régulièrement par les Russes et par les Ukrainiens aussi sur les positions russes, ont cessé. Mais il n'y a pas eu de décélération, on va dire, de l'activité militaire sur le front à proprement parler. Donc il y a eu une sorte d'apaisement sur la partie bombardement des infrastructures civiles, mais moins sur le front. Mais il y a eu quand même un projet qui n'a toujours pas abouti d'échange de prisonniers. Et surtout, ce qui est très intéressant, vous avez souligné tout à l'heure le fait que Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt, que la guerre en Ukraine lui semblait arriver vers la fin. Vladimir Poutine a accepté de rencontrer Volodymyr Zelensky en disant qu'il n'avait jamais été hostile à une rencontre, qu'elle devrait avoir lieu ou à Moscou ou dans un pays tiers. Et quand on regarde par rapport à ce que disait Vladimir Poutine en 2022 de l'état-major ukrainien et de ses dirigeants, il les traitait de gangs, de drogués et de nazis. Là, il s'adresse à M. Zelensky. Donc il y a quand même eu un progrès qui montre, et Zelensky lui-même a dit qu'il n'était pas hostile à une négociation, Poutine indique simplement que s'il y a rencontré avec Zelensky, il faudra obligatoirement qu'il y ait signature d'un document terminant la guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que des négociations aient lieu pour que ces négociations se clôturent par une rencontre. Donc ça complexifie l'hypothèse d'une rencontre, mais en tout cas, la porte n'est pas fermée. Et on remarque quand même que de part et d'autre, il y a quand même des gestes de bonne volonté qui montrent qu'on pourrait s'acheminer dans un futur proche, plus ou moins proche, vers une fin de la guerre en Ukraine.
Alors, effectivement, vous le soulignez, quand Vladimir Poutine explique que la guerre en Ukraine se dirige vers sa fin et qu'il est prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky pour signer un accord, c'est qu'il faut qu'il y ait des négociations. Justement, on a l'impression que ces négociations ont lieu, en fait. On en parle moins, on n'a pas de déclaration de la coalition des volontaires de Macron, mais on n'a pas de déclaration de Donald Trump, mais... pour que Poutine se risque à expliquer que la rencontre doit avoir lieu pour signer un accord, c'est vraisemblablement que tout est déjà en train d'être discuté.
Oui, je pense que les discussions n'ont pas cessé en coulisses. Effectivement, elles ont moins de publicité et puis elles sont, on va dire, masquées par d'autres discussions qui ont lieu sur le conflit en Iran. Conflit en Iran qui a eu beaucoup de conséquences sur le conflit en Ukraine. Très intéressant d'ailleurs de remarquer que les deux conflits sur certains aspects se rejoignent et que l'Iran pour la Chine et la Russie est devenu l'objet, et surtout la résistance iranienne aux États-Unis est devenu l'objet d'un intérêt renouvelé de ces deux pays pour l'Iran, qui est une pièce essentielle aujourd'hui, dans leur axe de résistance aux États-Unis. Ne pas oublier que cette semaine donc, s'ouvre la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump à Pékin, la visite donc, de Donald Trump à Pékin. Donc, beaucoup de choses vont se discuter à ce moment-là et peut-être même l'avenir de la guerre en Iran. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette guerre en Iran a permis à Vladimir Poutine, on va dire, de refinancer sa guerre en Ukraine avec un baril à plus de $100 de façon sur une période relativement longue. Eh bien, Poutine évidemment engrange des bénéfices, même si les Ukrainiens ont tenté d'atteindre les raffineries et avec succès parfois, on leur a glissé quand même dans le coin de l'oreille qu'il valait mieux pas trop insister là-dessus pour perturber encore plus l'économie des hydrocarbures dans le monde. Mais la Russie, évidemment, c'est tout bénef pour elle. La pression s'est relâchée. On a même vu les États-Unis enlever les sanctions sur le pétrole russe en raison de l'impérieuse nécessité que le pétrole continue à circuler. Et vu que le détroit d'Ormuz était bloqué, eh bien, le pétrole russe en a profité. Donc finalement, c'est une opération, cette guerre en Iran, c'est une opération qui a bénéficié à Vladimir Poutine. On a vu au début, maintenant c'est moins le cas, mais on a vu Volodymyr Zelensky lancer de véritables appels au secours au moment du mois de mars, début avril, sous-entendu ne m'oubliez pas, et proposant ses services aussi à des pays comme les Émirats arabes unis pour contrer la menace des drones Shahid, donc des drones iraniens qu'il connaît très bien en Ukraine. Et il y a eu d'ailleurs des spécialistes des drones ukrainiens qui ont été dépêchés sur place. Donc Volodymyr Zelensky, à un moment, s'est dit « mais on va complètement m'oublier et je vais me faire dévorer par Poutine et plus personne, tout le monde va tourner la tête ». Donc il y a eu une période comme ça. Mais on va dire que globalement, ce qui s'est passé en Iran a conforté la position de Vladimir Poutine, même si sur le terrain, aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a aucune avancée significative de part et d'autre de la part des deux adversaires.
Donc effectivement, le front est gelé et on le sait, vous en avez abondamment et justement parlé à cause de cette nouvelle donne que constituent les drones et cette capacité à cibler immédiatement n'importe quelle cible mobile, n'importe quel PC de communication qui se révélerait. Le conflit ukrainien, effectivement, est complètement passé à l'as. Au profit du conflit iranien, c'est-à-dire que dans un cas, le monde entier est impacté par ce conflit iranien. C'est-à-dire, voilà, le prix du pétrole augmente, c'est une catastrophe en Asie, c'est un ennui aux États-Unis, c'est une grosse souffrance pour les automobilistes français, mais pas au point de souffrir comme comme les Asiatiques, alors que le conflit ukrainien, somme toute, ne touchait pas grand monde.
Oui, tout à fait. C'était comment l'impact. Enfin,
pardonnez-moi, quand je dis qu'il ne touchait pas grand monde, ça ne signifie pas du tout que je mésestime les souffrances du peuple ukrainien et le fait que cette guerre menée depuis 4 ans a évidemment mis ce pays à genoux. Mais voilà, le reste du monde, je veux dire le Brésil, n'était pas touché par ce qui se passait en Ukraine, ni les pays africains.
Non, le conflit en Ukraine, contrairement à ce qu'on pouvait craindre au départ, est resté, on va dire, régional. Et d'ailleurs, les adversaires ont tout fait pour, enfin, sauf les Ukrainiens qui ont voulu, évidemment, ramener l'opinion internationale, les Européens, les Américains à leur côté. Mais on va dire que dans le cadre, dans la géopolitique mondiale, il est resté régional. Il s'est pas étendu. Et d'ailleurs, l'arrivée de Donald Trump a plutôt, d'ailleurs, permis qu'il reste régional, puisque Donald Trump a décidé, en dépit de ce conflit en Ukraine, d'ouvrir des relations nouvelles avec la Russie, faut pas l'oublier, notamment qui ont culminé avec la rencontre d'Anchorage entre les deux présidents et d'ailleurs, si le conflit en Ukraine se termine, vont peut-être changer la donne et accélérer les échanges entre la Russie et les États-Unis, ce qui est nouveau. En revanche, le conflit en Iran, qui aurait dû rester, on va dire, une affaire une affaire locale ou régionale, ce que Donald Trump attendait et ce que Benjamin Netanyahou attendait, c'est-à-dire la chute du régime iranien, s'est transformé avec l'affaire du blocage du détroit d'Ormuz en un épisode avec des conséquences internationales dont on ne mesure seulement que les prémices. Ce blocage, d'ailleurs, s'il persiste, il risque d'avoir d'autres conséquences. Et on sait que les Iraniens ont encore la capacité de détruire les infrastructures gazières et pétrolières non seulement des Émirats Arabes Unis, mais aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Si l'Iran décidait d'accélérer, eh bien, ça créerait une crise durable au niveau des infrastructures énergétiques dans le monde. Et Donald Trump en est parfaitement conscient. Et aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement critique pour les États-Unis en particulier, parce que ce dont on se rend compte, c'est que ce blocage du détroit d'Ormuz, avec ses conséquences internationales, fait peser sur Trump énormément de poids, alors que l'Iran, lui, peut largement continuer, on va dire, et même se payer le luxe d'un redémarrage de la guerre sans que, finalement, sa survie soit mise en cause. Donc, il y a vraiment, de la part de l'Iran aujourd'hui, une position de force dans les négociations. On le voit bien, le refus, d'ailleurs, de Donald Trump hier de la proposition iranienne. Pourquoi la refuse-t-il ? Tout simplement parce que les Iraniens lui disent « Écoutez, on est d'accord pour négocier sur le détroit d'Ormuz, mais pour le nucléaire et l'uranium enrichi, on verra après. » Voilà, ils veulent dissocier les deux sujets, considérant que l'affaire du détroit d'Ormuz est bien plus importante que le nucléaire. Et l'affaire du détroit d'Ormuz et ce blocage est devenu pour l'Iran une arme bien plus importante que le fait d'avoir la bombe atomique quand on y réfléchit, puisqu'ils font peser sur l'économie mondiale une réelle menace.
Alors, et ça, donc Donald Trump, vous nous l'avez dit, donc est très mécontent du fait que les Iraniens n'aient pas accepté La proposition américaine, alors proposition qui a été formulée d'une manière bizarre, puisque J.D. Vance ne s'envolait pas. Une fois que, quand il partait, il revenait tout de suite. On était un peu surpris par la manière dont les négociations se passaient. On a l'impression que le front ukrainien est peut-être en train de se résorber, que d'ici quelques mois, ça y est, il va y avoir un accord qui sans doute arrivera à la conclusion que la Russie prendra 20% du territoire ukrainien et s'arrêtera là. Et par ailleurs, on a ce conflit iranien qui a l'air de s'enquister avec un Donald Trump qui passe son temps à expliquer « attention, on va voir ce qu'on va voir ». Et tous les milliers de soldats américains sont prêts à déferler sur les terminaux pétroliers iraniens. Mais là aussi, on a l'impression que plutôt Donald Trump se retire et de même qu'il a confié et le financement du conflit ukrainien l'appui militaire à la manière dont la coalition des volontaires est censée se débrouiller, on a l'impression aussi que pour l'Iran, il est en train de refiler le bébé à l'Union européenne et en train d'expliquer que puisqu'il a réussi lui tout seul à faire en sorte que le détroit d'Ormuz soit bloqué, c'est à l'Union européenne de le débloquer.
Oui, mais ce qui est vraiment qui est significatif, c'est que à mon avis, de ne pas s'arrêter aux déclarations elles-mêmes, mais de regarder les attitudes et la succession des renversements de position de Donald Trump, qui est symptomatique d'une frustration du personnage qui n'arrive pas à obtenir cette réouverture du détroit d'Ormuz. Alors, tantôt, il dit qu'il faut exercer un blocus du blocus, ce qu'il a mis en place en mer d'Oman. Et puis, lundi dernier, il nous explique qu'on va lancer le projet Liberté d'accompagner avec des moyens militaires les cargos et de leur permettre de quitter le détroit d'Ormuz. Deux jours plus tard, probablement sur pression des Saoudiens qui n'ont qu'une crainte, c'est que les Iraniens recommencent la guerre et détruisent les infrastructures qui leur permettent encore, c'est le cas aussi pour les Émirats, d'écouler leur pétrole. Si les Iraniens décident de viser les pipelines, c'en sera fini de la production de l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite le sait très bien. Donc elle fait pression justement pour ne pas que les choses se débouchent sur une réouverture de la guerre. On sent très bien que le Qatar également est dans cette situation. Ce sont des pays qui ont déjà beaucoup perdu, mais qui ne veulent pas tout perdre, et donc ils font pression. Et comme il n'y a pas vraiment d'objectif américain quand on y réfléchit, et les objectifs de guerre annoncés au départ ne se sont jamais concrétisés, l'idée c'est de maintenir ce cessez-le-feu et de faire en sorte de régler les choses, on va dire, diplomatiquement. Et là, les Iraniens savent qu'ils ont l'avantage, et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas des propositions américaines qui restent, et c'est ça le problème, c'est que les propositions américaines restent dans l'objectif et dans l'idée d'une capitulation. Or, on ne peut pas exiger d'un adversaire qui a encore des cartes, et qui en particulier a cette capacité de bloquer le détroit d'Ormuz, de tout à coup dire « bon, écoutez, c'est bon, on rend les armes, on signe et on arrête la guerre ». Ce n'était pas possible. Donc Donald Trump, et c'est ça, c'est les limites peut-être de Donald Trump. Le magnat de l'immobilier, lui, savait négocier en immobilier, savait négocier pour fabriquer des tours, pour vendre des terrains, etc. etc. Et il avait cette manière, on va dire, très particulière qu'il a tenté, parfois avec du succès, d'appliquer à la diplomatie internationale. Sauf que là, on n'est pas dans la soumission d'un adversaire, on ne va pas le forcer à comment, puisque cet adversaire, justement, s'estime encore dans la partie et s'estime avoir justement résisté. Et là, Donald Trump doit absolument faire un effort. Est-il capable de prendre les positions iraniennes et d'amender les siennes? Ça va être toute la question avec cette montre, ce chronomètre qui tourne et qui n'est absolument pas en faveur du président américain. C'est-à-dire que, comme disait ce vieux proverbe des talibans, vous avez les montres, mais nous, on a le temps. Ben c'est un petit peu ce que disent les Iraniens aujourd'hui aux Américains et aux Israéliens.
Eh bien, merci beaucoup Régis Le Sommier pour cette analyse de l'Ukraine et de l'Iran, et à la semaine prochaine.
Merci.
Et tout de suite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour, bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous donner des nouvelles d'un revenant, de quelqu'un qui est tombé dans un trou. Vous allez nous parler de Christian Estrosi.
Oui, vous vous souvenez, il était maire de Nice. Et 18 ans après, il a laissé sa place à son pire ennemi. Et comme le rappelle Lucas Hélin dans les colonnes du Figaro, il est réapparu une seule fois depuis sa défaite, il y a un mois au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant que président délégué de la collectivité. Son seul mandat ? Et hier, on l'a vu dans la Marne, à la réunion des cadres d'Horizon. Il a envie de continuer et d'être de la partie soutien un estrosiste. C'est d'ailleurs ce qu'il a laissé entendre à quelques-uns de ses derniers fidèles. Presque persuadé, ajoute le journaliste du Figaro, que si Édouard Philippe devenait président en 2027, il serait réhabilité et pourrait partir à la conquête, reconquête de Nice. Et même ministre. Enfin, ministrable, hein, s'imaginer ministrable. Et du côté d'Horizon, on est embarrassé, surtout que de nombreuses affaires judiciaires dans lesquelles le nom d'Estrosi est cité le rendent indésirable. Une nouvelle enquête vient d'ailleurs d'être ouverte par le parquet de Nice au sujet de l'usage des chauffeurs de la ville avec son épouse. Et puis, il faut ajouter que son retour... Alors,
l'usage des chauffeurs de la ville avec son épouse est une formulation que je trouve un peu hasardeuse.
Alors, c'est ce qu'écrit le journalisme. On a compris aussi... Alors, il y en a eu d'autres qui avaient fait usage... un peu, disons, répétitif des voitures qui sont pas forcément des voitures de fonction d'ailleurs, hein. C'est des voitures aussi type taxi et compagnie, puisque vous savez qu'on a parlé de ces allers-retours à Paris aussi, où à Paris il y avait un appartement, enfin il y a eu beaucoup de choses qui sont accumulées. Et puis il faut ajouter aussi que son retour dans les coulisses régionales s'est révélé tendu, car l'ancien maire aurait demandé à conserver des dizaines, je dis bien des dizaines de collaborateurs, exigence qui a déplu à son ami Muselier. Alors en attendant, Christian Estrosi travaillerait à l'écriture de son livre « Confession », qui aurait dû s'appeler tout simplement « Maire ». Je pense que ça m'étonnerait qu'il garde ce titre-là.
Et hier, dans le JDD, donc le journal du dimanche, Sarah Knafou a donné un entretien dans lequel elle dit clairement « Je souhaite qu'Éric Zemmour soit notre candidat ».
Oui, mais avant tout, elle revient sur le programme pour la France, cette plateforme qu'elle a lancée et qui a rassemblé 4300 contributions et 11 000 votes. Alors chacun peut y participer, dit-elle, en se rendant sur le site www.leprogrammepourlafrance.fr. Surtout, dit-elle, quand je lis les contributions chaque jour, je suis épaté par le sens politique des Français, leur inventivité, leurs idées, les exemples qu'ils vont chercher ailleurs. Je trouve cela admirable. Nous avons les forces vives pour relever le pays. Le ressort n'est pas cassé. Pour elle, c'est clair, ce programme est mis à la disposition de son candidat Éric Zemmour à un an de la présidentielle. Et à la question d'Antonin André, le RN et Reconquête restent-ils irréconciliables ? Sarah Knafou répond, nous avons des différences réelles de programme, de méthode, de conviction, et c'est très bien ainsi. Nous sommes en revanche proches de leurs électeurs et le nombre de leurs cadres qui se reconnaissent dans notre ligne. La fin des gabegies, le refus de l'islamisation, la liberté économique, la baisse des impôts, le droit de propriété, le travail, la défense de la civilisation française. Voilà, c'est à lire dans le JDD en vente jusqu'à demain soir.
Et rappelons que Philippe Muret et Juan Brancon, eux aussi, ont fait un programme participatif. À la une du Figaro, fin de vie, donc le débat reprend sous haute surveillance et sous haute tension au Sénat.
Oui, à ce sujet, la question majeure de l'aide à mourir devrait être tranchée par le peuple, estime l'avocat Francis Spitzer. Spitner, sénateur LR de Paris. Alors, sa proposition de loi visant à organiser un référendum, en fait, pour exclure de la notion de soin la provocation active de la mort, a recueilli plus de 185 signatures de parlementaires requises pour être transmises au Conseil constitutionnel. Alors, son raisonnement est à écouter, hein, il dit... « Je suis agnostique », confie-t-il dans un entretien au Figaro, « je n'ai pas de conviction religieuse qui m'amène à condamner ce texte. Mais avocat, j'ai prêté serment à une époque où la peine de mort existait, je suis profondément abolitionniste. Mon intime conviction prend racine dans le combat pour l'abolition de la peine de mort. Je ne fais pas de lien direct entre suicide assisté et peine de mort, mais je considère qu'il existe un parallèle entre la motivation des abolitionnistes et celle des opposants à l'euthanasie. Le rôle d'une société n'est pas d'aider à tuer ses membres, mais de les accompagner et de les aider dans les épreuves.
Alors, le site Boulevard Voltaire revient sur l'inauguration en Vendée d'une nouvelle chapelle dédiée aux chrétiens d'Orient.
Oui, alors, au Sable d'Olonne, écrit la journaliste Iris Bridier, elle accueille désormais une relique de Saint Charbel, ermite libanais, réputé pour ses 30 000 miracles. Tandis qu'en Arménie, la cathédrale Sainte-Mère de Dieu et l'église Saint-Jacques de Stepanakert viennent d'être rasées par les autorités azerbaïdjanaises dans un silence assourdissant, qu'à Jérusalem, une religieuse a été bousculée, frappée dans la vieille ville, qu'au Liban, un crucifix a été détruit et qu'un couvent a été réduit en ruine par l'armée israélienne, il n'est pas un jour sans que l'actualité ne nous rappelle combien les chrétiens d'Orient sont persécutés et combien ils ont besoin de notre soutien, autant matériel que spirituel. Alors, l'église des Sables d'Olonne devient votre église. Vous êtes ici chez vous, a déclaré l'abbé Nouaoui, curé de la paroisse Sainte-Marie des Sables d'Olonne. Et pour Véronique Besse, présidente de l'association Solidarité Vendée-Liban et membre du groupe d'amitié France-Liban à l'Assemblée nationale, ce lieu est désormais dédié aux chrétiens d'Orient. Il nous permet de les avoir symboliquement près de nous afin de ne jamais les oublier, tout particulièrement en temps incertain. Et en ces temps incertains. Et c'est également une façon de perpétuer les liens qui unissent la France et le Liban, la Vendée et le pays du Levant. Et c'est vrai qu'ils en ont pas mal besoin en ce moment.
Et enfin, Terik Tegner fait parler lui depuis quelques jours, mais ce n'est pas pour nous vendre de l'information, c'est pour nous vendre de la binouze.
pour ceux qui ne le savent pas encore, en effet, le fondateur du magazine Frontières lance sa bière 100% bretonne avec son associé Éric Ruclin à Pléguienne dans les Côtes d'Armor. Alors elle est baptisée la Kerfav. L'inauguration de la brasserie est prévue le 14 mai prochain lors d'une grande fête avec un bar ouvert au public et des concerts. Donc vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, le principal intéressé n'a pas manqué de s'exprimer pour qualifier les antifas d'emmerdeurs, ceux qui s'opposent à cette sortie de sa bière, à sa fête du 14, et d'affirmer haut et clair que sa brasserie n'a pour but que de valoriser le terroir breton. Alors il maintient également la fête d'inauguration le jeudi de l'Ascension, malgré la promesse de ses actions dites antifascistes, et sur le site d'Ouest France, le maire de Pléguienne a rappelé que malgré l'ouverture de cette brasserie, elle sera particulièrement vigilante au respect, je cite, des valeurs de tolérance, de bienveillance et de respect qui rassemblent notre commune.
Alors, on sent la bienveillance, effectivement, oui. Immédiatement.
Alors, j'ajoute qu'Éric Tegner, qui revendique la liberté d'entreprendre comme le relais le Télégramme, prévient que plusieurs signalements et plaintes seront déposés dans les prochains jours contre les auteurs de propos injurieux, diffamatoires, racistes ou menaçants. Alors, je précise que son associé est noir et qu'il a subi des propos injurieux et racistes sur les réseaux sociaux. Ceci expliquant cela.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Et restez avec nous pendant les quelques minutes de la zone libre où Alice et Alexandre sont allés ramasser des perles dans des endroits inexplorés. Alexandre.
Zone libre.
Si je peux m'exprimer, si on m'ouvre le micro, je suis allé chercher effectivement des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
Ah, mais c'est beau.
C'est moi.
En faire une chanson.
J'y penserai un jour. Ouais. Non, mais alors, comme les auditeurs demandent beaucoup de ces nouvelles, je vais vous tenir un petit peu au courant, chers amis, de l'actualité du Bongo des Montagnes. Le Bongo des Montagnes, effectivement, que vous connaissez tous, hein. Est-il besoin encore de présenter cette antilope kenyane effectivement est devenue le fantôme de la forêt. Alors il en resterait plus qu'une centaine d'exemplaires et vous me demandiez donc de ces nouvelles. Et sachez que quatre individus venus de République tchèque qui étaient en zoo vont finalement être réintroduits. Donc c'est la question que vous me posiez d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. Ils seront bien réintroduits, je le confirme, donc dans la jungle kenyane sur les bords du Kilimandjaro, avec pour objectif d'atteindre une population finale de 750 bongos des montagnes sauvages au Kenya.
Et donc, quoi, il suffit de très peu de population au départ pour repeupler tout un territoire.
Mais voilà, et quelque part,
c'est une vraie leçon, je crois.
Tout n'est pas perdu, comme vous le dites. Je vous laisse tirer vos leçons d'extrême droite de cette nouvelle pourtant...
Absolument pas, je parlais du repeuplement des campagnes.
Oui. On connaît vos airs un petit peu...
Alice, est-ce que vous nous amenez aussi loin que le bongo des montagnes
non.
Ou un peu plus près?
Moi, je vous amène sur le plateau du Quotidien, où Bruno Le Maire a indiqué que son grand-père est né en Algérie et qu'il avait des origines algériennes. Sauf qu'en fait, son grand-père s'appelle Enguerrand de Fradin de Bélabre.
Et oui, ça fait pas trop algérien, on est d'accord.
Peut-être né là-bas, je sais pas.
Et en effet, il est né à Alger, mais c'est un pied noir d'ascendance franco-britannique.
Mais c'est pas parce qu'on est à Alger qu'on a des origines algériennes, c'est complètement débile.
C'est pas parce qu'on meurt dans les camps que c'est parce qu'on était dans le bon camp quelque part. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même souci.
C'est un peu
puissant, ça. Non, mais c'est absolument fascinant que Bruno Le Maire soit en train de ramener le droit du sol pour essayer lui aussi de se doter d'une ascendance algérienne, comme si. Mais on voit d'ailleurs ce basculement incroyable de la classe politique française qui est en train de lécher les babouches et tout ce qui se passe entre les babouches et la tête de l'Algérie pour faire en sorte de séduire à son tour un électorat musulman et un électorat non pas étranger mais d'origine étrangère. C'est-à-dire, vraiment, on en est arrivé à un point stupéfiant.
Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand on lui reparle de la dette et quand on lui parle du déficit de la France, il dit qu'il n'est absolument pas responsable et qu'il n'était qu'un pion dans le rouage macroniste.
Voilà, mais heureusement, on sait que puisqu'on va vendre les statuettes de Dominique de Villepin, la France va être renflouée. Voilà, et que tout ça va se dissiper. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Chers auditeurs, il est 9h41, c'est le moment de prendre congé de vous sur YouTube et sur X, mais nous prenons congé de vous en vous disant une fois plus que si vous êtes beaucoup plus d'un million à nous écouter chaque semaine, vous n'êtes que quelques milliers à nous donner, ce serait pas mal de rejoindre le mouvement.
Oui, un million par semaine, ça nous irait très bien sur Radio Courtoisie ou même par mois, tiens, disons.
Allez.
Alors, vous êtes des millions à nous écouter, mais vous n'êtes malheureusement pas des millions à nous donner. Vous n'êtes que 2% à écouter, à financer Radio Courtoisie. Alors, on aurait besoin que tout le monde mette la main à la poche en fonction de ses moyens, bien entendu. Pour cela, rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Voilà, et tout de suite, nous réécoutons le sujet de ce matin, l'exposition saccagée à Paris, qui ne veut pas du vivre ensemble, et c'était Laurent Firode qui le commentait avec humour.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Laurent Firode. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour. Comment ça va?
À merveille, merci, et vous-même?
Très bien, ça va très bien.
Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes cinéaste, et que vous avez réalisé la trilogie Le Monde d'après, et surtout, vous avez une chaîne, enfin surtout, et en plus, vous avez une chaîne YouTube, Les Films à l'arrache, qui connaît un succès grandissant. Vous attaquez le politiquement correct, et si j'ose dire, le photographe Artus Bertrand, lui, au contraire, se vautre dans le politiquement correct, avec joie, avec délice, et avec rentabilité d'ailleurs, il n'y a pas que de la générosité de sa part, il y a peut-être aussi quelques juteux contrats. Et le voilà qui a envahi la place de la Concorde avec une magnifique exposition de photos qui s'appelle « Vivre ensemble ». Et le résultat a été immédiat, donc ces immenses photos présentant une France multicolore, une France diversitaire, une France heureuse, une France avec des couples à plusieurs papas, plusieurs mamans, plusieurs personnes, une France black, blanc, bleur, comme on aurait dit dans les années 80-90, a été immédiatement salué par justement ceux dont il prône l'accueil, ceux dont, avec qui il prône la cohabitation, ceux qu'il appelle dans un vivre ensemblisme touchant à accueillir. Et donc les supporters du PSG ont ravagé son exposition, ont tout mis par terre et pendant entre deux mortiers tirés contre les policiers, ils ont soigneusement piétiné toutes ces images du vivre ensemble.
Eh oui. Vous avez parfaitement résumé la situation, c'était magnifique. Moi j'étais passé devant, je me souviens, je prenais le bus et j'étais passé devant l'exposition. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'était tous ces panneaux dégueulasses qui faisaient en sorte que cette si belle place, qui est déjà bien défigurée par tous les travaux à la con qu'ils font, c'était encore pire, quoi. Donc, quelque part, donc c'est un pied de nez au vivre ensemble, bien sûr, c'est un immense gars qui est arrivé, mais également, je trouve que c'est une œuvre de salut public, parce que c'était tellement laid et tellement horrible pour cette exposition que, heureusement, elle a été saccagée. Mais je crois qu'on on me dit qu'elle a été remise sur, remise sur pied.
Elle a été remise sur pied. Alors oui, il faut quand même dire à quel point c'était laid. C'est-à-dire, c'était avec du bois de charpente, avec du bois de chantier, du bois dont on aurait fait des caisses avant et encore pas les plus luxueuses. Et donc, ces grandes photos avec cette espèce d'esthétique à l'Artus Bertrand, on écrit bien, c'est léché. Voilà, la photographie permet de ne rien laisser dans l'ombre. Il s'était fait connaître en photographiant des vaches, je ne sais pas si vous vous souvenez, des vaches et des bœufs dans les années 80-90. Tout le monde était super excité par les photos de Yann Arthus Bertrand qui photographiait des vaches comme s'il s'agissait de top modèles. Et depuis, il a un peu changé. Il a photographié le monde vu d'en haut. Et là, le voilà au cœur de la France. Et avec son exposition à petit prix, pour ainsi dire, où évidemment, on se passe de mettre de véritables support pour ces grandes photos. Donc, il avait effectivement transformé la place de la Concorde en palissade de chantier. C'était un peu surprenant. Et on se retrouve avec donc Arthus Bertrand qui, le matin, le lendemain matin, après la qualification du PSG, donc erre place de la Concorde, les larmes dans la voix, les larmes aux yeux, filme la dévastation et explique que, de toute façon, il ne faut surtout pas pleurer et que ce vivre ensemble, en fait, n'a pas du tout été attaqué par ceux qui en sont les principaux personnages, donc les gens de la banlieue. On les a vus, on a vu les photos, effectivement. Il y avait assez peu de charcutiers de Mourmelon et de dames du 16e arrondissement pour piétiner les panneaux. Ça avait ressemblé beaucoup plus à des jeunes de banlieue, voilà, issus de la diversité, des gens capables de voter LFI à Saint-Denis, en gros, hein, pour le dire ensemble, et qui n'avaient pas l'air d'être totalement du vivre ensemble. Et vous en avez profité pour réaliser un petit sketch que vous nous avez autorisé à diffuser.
Et avec grand plaisir.
Tout est dit, là, non?
Comment ça?
Bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit une exposition saccagée et une solidarité de tous ces gens qui viennent pour relever l'exposition. Mais moi, c'est hyper émouvant. Enfin, tu te rends compte? Tous ces bénévoles, en plus, qui viennent pour réparer l'exposition, pour dire au monde, le vivre ensemble, c'est pas une illusion. Tu comprends?
Mais, pardon, mais les casseurs...
Les casseurs, c'est les premières victimes du refus de la société française au vivre ensemble. Et là, ils viennent nous dire un message très fort. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais le vivre ensemble, mais c'est pas pour nous, le vivre ensemble. Il faut continuer à se battre pour lutter contre toute forme de discrimination.
Et toi aussi, tu y vas pour remettre en état l'exposition?
Hein? Ah non, moi j'ai des problèmes de dos. Et puis en plus, là je suis sur un gros coup, là, un projet hyper ambitieux. Je vais proposer une parole nouvelle sur le vivre ensemble. Et d'ailleurs, là, je vais à la mairie, en fait, pour récupérer les subventions.
Et c'est quoi comme projet, sans indiscrétion?
Ah non, c'est pas indiscret. Non, c'est un festival ouvert et inclusif qui est dirigé et composé majoritairement de cette nouvelle France dont on est si fiers et qui vient dire à l'ancien monde, il faut lutter contre toute forme de domination néocoloniale et patriarcale dont ils sont victimes.
Mais c'est quoi ce festival, enfin concrètement?
Ah, bah on va brûler des voitures, des bibliothèques, des médiathèques, des écoles, enfin tout ça quoi.
Mais c'est pas déjà ce qui se passe?
Bah oui, c'est ce qui se passe, mais là la grande différence c'est que on a des subventions.
Ah, d'accord.
Bah attends, les tirs de mortier ça coûte une blinde, les cocktails Molotov avec l'augmentation du prix de l'essence, ils peuvent pas se le payer. C'est une population hyper défavorisée.
Bien sûr.
Ce qui est fascinant, c'est que donc le camarade Arthus Bertrand donc est en train d'errer place de la Concorde, en train de filmer la dévastation. Il se rend compte que les photos ne peuvent pas être remises en état parce que les plots qui maintiennent les palissades sont beaucoup trop lourds, ce sont des parpaings, et donc il fait sa vidéo et il commence à dire qu'il a reçu des milliers de messages de soutien. Ensuite, il explique qu'il y a 150 personnes qui sont venues. Ces 150 personnes qui sont venues sont en fait des personnes qui ont regardé ce message sur les réseaux sociaux et qui ont décidé de venir. Certaines ont enfilé le maillot du PSG et donc c'est particulièrement émouvant. Et au bout du compte, Arthus Bertrand nous raconte que ce qui est fabuleux, c'est qu'il a, expérimenté véritablement le vivre ensemble à travers cette solidarité.
Oui, absolument. Bah, d'ailleurs, c'était une situation tellement ubuesque que bien sûr, ça m'a tout de suite donné envie de d'en faire un sketch où je tire un peu les fils. Hein. Je crois que le projet évoqué dans le sketch pourrait un jour, à mon avis, de toute façon, c'est quasiment le cas déjà, être mené à bien, parce que je pense que... Oui, non, c'était amusant, c'est ce côté... Comment il s'est rattrapé, il y a Artus Bertrand, c'est vrai que c'est assez drôle, c'est-à-dire... Oui, le vivre ensemble existe parce qu'il y a quelques personnes, 150, vous me dites, qui sont venues pour...
C'est lui qui le dit, hein.
C'est lui qui le dit, parce que moi, oui, donc après, je ne pense pas qu'il y en ait eu 150, je pense que c'est surtout peut-être des gens de la mairie de Paris pour les gens qui s'occupent de balayer, en fait, hein, je pense qu'ils sont venus. Mais voilà, c'était assez extraordinaire comment il a su récupérer le truc. Il est quand même très fort, moi, je dirais, quoi, quelque part, quoi. Il ne se démonte jamais, au contraire de son exposition, mais en tout cas, il arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et non, c'est vraiment... à chaque fois, on est surpris par le réel qui est toujours plus extraordinaire et plus grotesque que toutes les imaginations qu'on peut avoir, tous les scénarios qu'on peut avoir en tête pour évoquer notre époque actuelle. Le réel nous rattrape toujours et il ne nous déçoit jamais, en fait, hein, quand on regarde ça d'un œil un peu ironique et rigolard, j'essaie de faire.
Et vous avez raison, avec ces films à l'arrache, où parfois les dialogues paraissent outranciers, les postures paraissent être démentes, et deux jours plus tard, deux heures, deux semaines, Sandrine Rousseau, Cécile Duflot, Gabriel Attal sortent une énormité, on se dit zut, ça y est, j'ai à nouveau été dépassé par le réel. Dans la réaction de Yann Arthus Bertrand, il y avait quelque chose que j'ai trouvé remarquable, c'est d'une part de dire, bien sûr, les photos sont un peu gondolées, et donc voilà... Le vivre ensemble est un peu abîmé, voilà, effectivement. On ne peut pas nier que ces photos ont été abîmées. Il y a plus de 160 000 euros de dégâts. Voilà. D'ailleurs, les gens croient suffisamment au vivre ensemble pour ne pas avoir envie de les réimprimer, de les réinstaller. Donc, bien sûr, tout ça était des frais. Mais surtout, il conclut en disant « Les gens sont venus naturellement, tout est oublié. Voilà. Tout a été oublié. » Je cite exactement Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire quand le réel s'impose à nous, quand la banlieue déferle sur Paris et fout en l'air, il n'y a pas d'autre mot, cette exposition consacrée au vivre ensemble, en ricanant et en piétinant, en sautant sur les panneaux, eh bien, que répond le bourgeois blanc Yann Arthus Bertrand ? Tout a été oublié.
Oui, tout a été oublié. Ben, forcément, en plus, je veux dire, certainement... Yann Arthus Bertrand a dû être payé pour faire cette exposition, donc en fait pour lui c'est un voilà c'est tout bénéfice hein, que ça soit mis à terre ou pas. Je veux dire, je pense qu'il a certainement retiré les marrons du feu à ce niveau-là. Je dirais même ça peut lui faire encore une petite promo hein, parce que je pense pas que l'exposition a été avant ça un immense succès. Je pense que c'est un peu comme ce qu'on appelle l'effet stressante, hein, c'est-à-dire que voilà donc je pense que ça a été un joli coup pour lui, en fait. Un très joli coup pour lui. Et maintenant, on se dit, putain, ce mec-là, quand même, il se bat vraiment pour le vivre ensemble, malgré tout. Il est toujours souriant derrière sa jolie moustache. Voilà, donc je pense qu'il ne devait pas être très mécontent de ce petit incident, à mon avis. J'en suis même certain.
Et dans les mois qui viennent, vous allez sortir un nouveau film dédié à Emmanuel Macron, si je ne m'abuse. Est-ce que cette thématique du vivre ensemble en fera partie ?
Oui, évidemment. Bah oui, bien sûr, parce que quand même, nous sommes bien d'accord que tout cela arrive sous l'ère Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas un hasard, quoique bien que personne n'est vraiment dupe, Emmanuel Macron n'est que voilà, le résultat des 40 années qui l'ont précédé. Hein. Donc voilà, donc il n'a rien apporté vraiment de neuf, peut-être encore quelque chose de pire, mais bon, en même temps, il suit vraiment les lignes déjà indiquées précédemment. Et donc, en effet, je suis en train de tourner un film, donc évidemment, là, j'ai eu quelques soucis avec la météo qui n'est pas vraiment au beau fixe, et j'avais des scènes extérieures, donc j'ai dû un peu reculer tout ça. Mais en effet, ça sera un film sur la réélection d'Emmanuel Macron. Et voilà, on va faire une petite photographie de cette France qui a revoté pour... pour Macron, quand il a été réélu, et ça a été quand même un événement assez majeur. On se dit, ce mec-là ruine la France, ce mec-là fait un mal de fou à la France, et pourtant, on revote encore pour lui. Donc j'ai voulu savoir pourquoi, en fait, dans un immense éclat de rire, hein, ça reste un film burlesque, avec des situations totalement ubuesques, mais comme Ubu s'invite dans le réel, je pense que les gens vont faire en effet le lien. Et il y aura, bien entendu, ça aura évoqué ce fameux « vivre ensemble » dont on nous rabâche les oreilles, hein, matin, midi et soir, sur le service public, etc., et dans des expositions magnifiques. Enfin voilà, donc tout le monde est là pour le vivre ensemble, mais jamais à côté de chez moi. Hein, bien entendu, tous ceux qui prennent le vivre ensemble, ils veulent le faire pour les autres, hein, jamais pour eux. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens, je pense, ont dû remarquer assez souvent. Je ne pense pas que Yann Arthus-Bertrand habite dans Seine-Saint-Denis, à mon avis, hein, je ne connais pas son adresse, mais ça me paraît assez évident.
Oui, en plus, il a l'habitude de se déplacer en hélicoptère, donc certainement, il est moins souvent dans le RER que ceux qui s'y font dépouiller. On attend évidemment la prochaine exposition de Yann Arthus-Bertrand, Vivre Ensemble 2, Vivre Ensemble Retour, où il a prévu, je crois, que ces expositions soient saccagées simultanément dans plusieurs villes de France. Et on attend la propre promotion de votre film, ou avec un peu de chance, vous serez en train de massacrer, après avoir offert des CD explosifs, de faire en sorte de faire sauter quelques médiathèques, comme vous l'avez proposé. Merci beaucoup, Laurent Firode, d'avoir été avec nous ce matin. Et longue vie au film à l'arrache.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est le moment de nous quitter, enfin, encore quelques minutes, mais on va justement se quitter en étant bons amis, c'est-à-dire que je vais vous demander un peu d'argent.
Oui, car les bons comptes font les bons amis, Richard, vous avez bien raison. Attention, attention, nous avons besoin de vous, chers amis qui nous écoutez, puisque Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous. Et bien, si vous le pouvez, merci de faire un geste en allant sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, pour faire un don en ligne et soutenir Radio Courtoisie qui ne vit que grâce à vous, et donc sans publicité ni subvention. Un grand merci d'avance.
Voilà, sans subvention, mais pas sans talent, puisque pendant tout le reste de la journée et jusqu'à tard ce soir, il va y avoir une succession d'émissions épatantes.
Oui, du talent dans quelques secondes, par exemple, avec Paroles et Pensées de Jean-René L'Admiral. Aujourd'hui, les Bobardeurs, critiques de la désinformation médiatique, notamment avec Jean-Yves Le Gallou. À midi et en direct, le Libre Journal de Michel de Rostolland, trahi par les élites, la francophonie, vecteur historique de la puissance française dans le monde. À 14h, le Libre Journal de Lumière de l'Espérance d'Olivier Figuera. De la Vendée au Mexique, une même persécution avec Reynald Séché, historien et écrivain nantais, de retour du Mexique. À 15h30, Histoires à la loupe de Patrick Simon. À 16h, Populaire, vous avez dit Populaire, de Renaud Dourge. À 16h30, En toute bonne foi, de France Andrieux, Prions pour nos soldats, dernière partie. 17h, Culture et politique, de Richard Haddad et Pierre Henry. 17h30, Restons courtois, comme tous les lundis, avec Pierre-Alexandre Bouclet, qui recevra Marin de Viry. Et puis, le rendez-vous de la réinformation. À 19h30, le Libre Journal du lundi soir, dirigé par Romain Petitjean, la chronique du grand l'âge de Patrick Simon, au programme. Et puis, face à la crise, retrouver la mentalité médiévale et autres sujets. Enfin, 21h30, la soirée musicale en compagnie aujourd'hui de Claudia pour une émission consacrée à l'église de la Madeleine. Vous savez tout.
Et moi, de mon côté, je céderai demain la place à Alexandre Degazin. On parlera foot, puisque ce sont les 50 ans de la défaite de Saint-Étienne. Si le poteau avait été rond, la face du monde aurait été changée. Michel Vernadier viendra parler de l'étude de la Fondation pour l'école. Et enfin, avec Charles Onana, ils aborderont le problème des massacres au Rwanda.
Voilà, vous allez dire « Allez les Verts » demain, si j'ai bien compris.
Exactement, on va chanter.
Ça change.